Souvenez-vous, nous avons entrepris dans la tactique une série d'émissions avec Champagne Ardanne Nature Environnement. Le mois dernier, avec Tanguy Petiot, qui est justement juriste pour Cannes, nous avons commencé à aborder les aspects juridiques. Comme toujours, ces échanges sont disponibles en podcast sur le site de l'émission. Aujourd'hui, nous poursuivons cette thématique, puis avec Frédéric Perard, nous aborderons un thème qui lui est cher, l'eau. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. À l'attaque. Voilà, est-ce que les procédures finalement fonctionnent ou est-ce qu'elles fonctionnent tardivement ou est-ce que c'est pas fait pour retarder des écolos bobos de gauche, pléonasme? Et l'histoire qui se tait, c'est qu'au final, les projets avancent. Parce qu'en fait, on crame beaucoup de temps et d'énergie. Et est-ce que ça vaut le coup réellement? Ça vaut le coup réellement?
Pour le coup, c'est les associations qui introduisent le recours en vue d'annuler l'arrêté d'autorisation. Donc après, c'est sûr que ça demande beaucoup de temps et de moyens, mais c'est le seul moyen pour que le projet ne soit pas mis en place.
Oui, mais imaginons, prenons l'exemple, je vais prendre, imaginons que je veux, par exemple, construire des trous dans mon jardin, pour, je sais pas, mettre des bâches et mettre de l'eau dedans, par exemple, ou construire des gros trucs qui vont casser des autres trucs qui polluent pour les brûler, pour refaire plein d'autres trucs. L'instant que... Ouais, Jean-Marie, il imagine plein de trucs. En fait, l'instant qu'il y ait ces procédures-là, moi, je peux construire tout ça. Et au final, même si... Admettons qu'on finisse par me dire que c'est illégal. Mais ça a quand même été construit.
Il faut une autorisation préfectorale.
Oui,
je prends l'exemple.
Et ensuite, une fois l'autorisation préfectorale donnée, c'est là que les associations interviennent, font des recours, etc.
Il y avait un projet de centrale à béton près d'Épernay, dans le vignoble. Plivaux.
Ah oui, ok, je
à Plivaux, une centrale, un projet. Et une association a fait justement ce recours administratif et il n'y a pas eu de construction.
Oui, mais là, je l'ai
juste... question,
c'est juste pour te dire, voilà, c'est déjà en construction. Je prends le cas de l'autoroute, c'est qu'à un moment donné, tu as quand même des constructions qui avancent pendant qu'il y a des recours. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est juste ça que je faisais remarquer.
Ah oui.
Mais en fait, il y a aussi le... Bon, soit ils ont le... Après, tout dépend. Des fois, il y a aussi des procédures de référé. Donc, c'est des procédures d'urgence où donc le juge peut suspendre l'exécution d'un arrêté en attendant qu'il y ait une décision définitive. Donc, dans ce cas-là, il pourrait y avoir... pour la 69, il y a eu un référé. J'ai pas le détail de...
Oui, ça a été suspendu, la 69.
Ouais. Ah bah c'est reparti.
Oui, mais c'est reparti. Oui. Ils ont
mais du coup, quoi, parce que l'État a fait appel.
Il y a des travaux illégaux dans le cadre de la 69.
Par ailleurs,
aussi, Mais après, il y a aussi l'enjeu financier. C'est aussi le porteur de projet, s'il décide d'aller au bout de son projet avec l'incertitude liée au recours, il prend des risques aussi, il le sait.
Il y a eu la centrale d'enrobée de Guise qui avait été construite avec l'autorisation du préfet, puis finalement... Au bout de quelques années, les voisins se sont constitués, les gens autour se sont constitués en assemblée, ont fait un recours au tribunal et la centrale a été fermée par décision préfectorale. Elle était construite, mais elle a été fermée.
Oui, sauf qu'en attendant, tu as des gamins qui sont malades et tout ça. Ils ont fermé parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de se rendre compte.
Il faut dire aussi que dans ce genre de dossier, moi, ce que je trouve vraiment inadmissible, c'est que ce genre de dossier comme Ketzen n'est pas du tout porté devant la population. Les gens l'apprennent trop tard qu'il y a à la mairie un dossier qui attend et où il faut donner un accord.
Oui,
ouais.
Sur un projet comme ça, qui comporte un risque de pollution et qui est soumis à autorisation préfectorale, comment au niveau de la préfecture prend-on une décision et quelle institution consulte-t-on pour savoir si le droit de l'environnement est respecté, quoi.
Bah, en l'occurrence, il y a bien sûr l'avis des commissions. Donc là, en l'occurrence, c'est le CODERST qu'on a cité, donc, le Comité départemental d'évaluation des risques sanitaires et technologiques. Il y a la population, normalement, avec l'enquête publique. Après, malheureusement, c'est que c'est une procédure qui peut être assez mal connue, donc c'est ça qu'il faut faire diffuser l'information.
Mais il y a plein de commissions aussi. Il y a l'ARS qui peut donner son avis.
Oui, tout à fait, il y en a plein. Oui,
l'Agence régionale de santé.
Bah, ce qu'il y a, ils pourraient déjà voir qu'il y en a qui ont été fermés parce qu'il y avait des dangers pour la population environnante. Et surtout que là, je crois que Kensel, c'est deux fois plus grand que celle de Guise.
C'est beaucoup plus gros, oui.
Donc, partant de là, s'ils ne veulent pas arrêter le projet, mais au moins dire, faites en sorte qu'il n'y ait pas d'émanation nocive. Parce que, comme on disait tout à l'heure, en Allemagne, ils ont des obligations par rapport au rejet dans l'atmosphère, quoi. Donc, si les Allemands le font, on pourrait le faire aussi, quoi.
Oui, hein,
donc, c'est là où c'est un manque. On marche sur la tête, quoi, complètement.
Et on est aussi à une époque où la Commission européenne s'attaque aux actes de protection de l'environnement, où on part du principe que là,
c'est pas le bon moment.
Elles sont en train d'alléger justement ces contraintes-là, qui n'étaient déjà pas non plus très, très fortes. Et comment lutter contre, en fait ? Enfin, comment fait-on pour...
On quitte l'Union européenne.
Oui.
Voilà.
Donc, est-ce que la CAN, je ne sais pas, ou indirectement via France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement est représentée dans des institutions européennes qui traitent des questions environnementales ?
Oui, mais il doit y avoir des... Je n'ai pas d'informations précises, mais je pense que des collèges, on va dire, qui représentent les associations, en tout cas la terre environnementale, au-delà des députés, je pense. Et après, il y a aussi un droit de pétition si ça marche vraiment.
Toute façon, le poids des lobbies est tellement important. Europe, les lobbies ont beaucoup plus de poids que les associations qui pourraient être représentées. Hein.
Mais c'est pas même pendant la COP. Qui a eu lieu récemment, c'est sûr.
Il y avait plus de lobby que de
manifestants. De toute façon, la COP, c'est vraiment un enfumage, ça aussi. Mais.
On entend quand même parler de personnes qui. Des populations autochtones qui sont spoliées. On entend quand même parler de déforestation.
Oui, mais rien n'est fait, si tu veux.
Rien n'est fait.
On n'en serait pas à la COP 30 si c'était efficace, quoi.
Des dirigeants qui ne prennent pas la chose en compte.
Ah oui.
Dirigeants qu'il faut changer.
Par rapport à votre question sur le lobbyisme, justement, auprès de l'Assemblée nationale, donc France Nature Environnement est inscrite comme représentante d'intérêt auprès de l'Assemblée nationale. Enfin, c'est Wikipédia qui le dit ça.
Oui, à France Nature Environnement, il y a une responsable plaidoyer. Auprès de l'Assemblée nationale. Mais au niveau européen, je ne sais pas comment ça se passe.
Et j'avais. Juste pour rebondir. Je termine ça et puis je rebondis sur une autre question. Et juste pour préciser, durant l'entre-deux-tours, donc de l'élection présidentielle de 2017, qui opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron. France Nature Environnement appelle implicitement dans une tribune avec 60 autres associations à faire barrage aux candidats FN. Juste pour vous dire qu'il y a quand même des positions expliquant... prend position. Est-ce que tu peux, parce qu'on a parlé de Kensel, est-ce que tu peux aborder les combats locaux ou les démarches qu'il peut y avoir dans le coin auxquelles auxquelles on vous a contacté? Parce que nous, on a déjà parlé de différents sujets, mais peut-être que toi, tu en as beaucoup à nous apprendre, ou tu vas nous dire, mais en fait, dans le coin, tout se passe bien, on protège la nature, on a des chasseurs exemplaires qui protègent les animaux, la forêt et l'espace vert.
Et le vignoble qui protège l'eau.
L'eau, un très grand sujet. Non, mais c'est vrai que En tout cas, dans le cadre des recours contentieux, on fait face à vraiment des sujets divers. On peut autant avoir des atteintes à des habitats ou des espèces protégées que des projets d'urbanisme ou d'installation classée. Mais en tout cas, on va dire plus de manière politique, dans le plaidoyer. En ce moment, il y a bien sûr la question de la qualité de l'eau potable et qui pose beaucoup de débats, notamment avec les PFAS, donc les polluants éternels, comme on les appelle. Oui, c'est un sujet qui a été amené sur la table assez récemment.
PFAS.
Mais oui, il y a... je sais pas où je vais peut-être définir. C'est des polluants qu'on retrouve dans des polluants plastiques qu'on retrouve dans beaucoup de
dans vos poils,
par exemple.
Les poils Tefal.
Beaucoup de produits de consommation depuis qui sont présents depuis de très très nombreuses années.
Il y en a partout.
Ouais, donc tant
ouais. Les poils, les vêtements, c'est ça, ouais. Les vêtements, l'alimentation, l'air, l'eau. Okay.
Donc oui, c'est un vrai problème. On essaie de se mobiliser au maximum et de communiquer là-dessus. Ouais.
Voilà. Et est-ce que vous avez eu vent, par exemple, parce que nous, on en avait plus ou moins parlé, mais les personnes avaient cessé de communiquer avec nous, du champ de panneaux photovoltaïques qui devait se mettre en place sur les communes de Ronay et aux alentours. Et en fait... est-ce que vous avez eu vent de cette histoire-là et savoir ce qu'il en est ?
Donc, comme ça me dit rien.
D'accord.
Ouais. C'est dans quel département ?
C'est près de chez nous.
C'est à 12 minutes d'ici, même pas.
D'accord. Ouais. Non, c'est vrai que...
Et l'association, le problème, c'est qu'elle a changé plusieurs fois de nom.
Ouais,
maintenant,
tel territoire.
Je ne sais plus où on en est.
C'est un propriétaire privé qui a des terres sur... le plateau, alors que de chaque côté, partout autour, il y a des vignes. Et sur ces terrains agricoles, sur le plateau, il veut construire des panneaux photovoltaïques. Mais pour les panneaux, c'est une chose. Mais il y a toute l'infrastructure électrique, enfin les canalisations.
Oui, après, il faut ramener le courant.
Les tuyaux électriques pour emmener le courant. Voilà.
Okay, et oui, donc
il y a destruction, alors parce qu'on est aussi dans les paysages de vignobles
qui
sont classés normalement.
Aussi.
Mais en fait, il veut faire pousser
des framboisiers.
Cultures de petits fruits rouges, donc framboisiers et tout ça en dessous. Et puis aussi mettre des poules, de la volaille, je crois.
Ouais.
Il y avait ça comme projet, parce que c'est d'accord. Des terres agricoles, donc pour dire que c'est toujours agricole.
C'est obligatoire.
Voilà. Il met des framboisiers des
c'est
poules.
C'est obligatoire,
quoi.
Je crois, quand c'est en terrain agricole comme ça. Souvent, ils mettent aussi des moutons, des trucs.
Des
chèvres.
Oui. C'est l'agrivoltaïsme.
Oui, l'agrivoltaïsme.
C'est il y a des conditions à respecter. Vraiment, il faut qu'il y ait une connexité vraiment entre les installations électriques et l'exploitation agricole. Et en tout cas, nous, on n'a pas eu connaissance de ce projet précis, mais en tout cas, on peut se mobiliser. Parce que c'est vrai que oui, c'est des projets qui ont, de manière générale, en France, qu'on peut souhaiter au regard de la lutte contre le changement climatique. Mais c'est vrai qu'il y a des impacts qu'on pourrait.
Oui, puis il y a des endroits où on pourrait mettre les panneaux où ça serait plus judicieux.
Sur
quoi.
Les toits.
Voilà, oui. Sur un toit d'usine, sur un toit de maison, sur. Ou protéger un parking du soleil en mettant des panneaux dessus.
Il y a des obligations sur les parkings.
Mais je crois qu'ils se sont constitués en association. Je ne sais pas s'ils n'ont pas un juriste dans leur association et qui avait fait un recours administratif.
Okay.
Mais je crois que ça vient d'être autorisé. Mais ils se sont aussi regroupés. Il existe une association... pour justement l'agrovoltaïsme en France et ils sont adhérents à cette association.
Ah bon, qui est spécialisée là-dedans, d'accord. Ok. J'ai pas connaissance de ce projet-là, mais...
Je pense qu'ils ont fait les recours eux-mêmes parce qu'il y avait des juristes...
D'accord, ok.
Et tu abordais aussi le point de vue sensibilisation tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Ouais.
Nous, on fait partie des personnes qui relayent souvent les messages de sortie du samedi ou des sorties éducatives, autant pour les cours d'eau ou pour les haies. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout cet aspect sensibilisation ouvert à tout le monde, pour, si ça peut intéresser des personnes?
C'est ça, oui. Parce que on est deux salariés à Cannes, donc j'ai une collègue animatrice qui s'occupe de gérer toutes les actions de sensibilisation à la nature et l'environnement. On a notamment la formation guide nature. Donc c'est un programme de 7 week-ends dans l'année. De formation de découverte de différents milieux naturels à travers la Champagne-Ardenne, donc répartis entre les 4 départements. Et donc le but, oui, d'avoir vraiment un spectre large de connaissances pour ceux qui veulent, tant pour les débutants que pour les plus confirmés. Et donc c'est en général un groupe de 15 personnes donc ouvert à tous. Sinon, on peut avoir des sorties nature régulièrement. Et également, on a fait cette année on a réalisé un programme d'animation en lien avec les cours d'eau pour réaliser des prélèvements sur les plus petits cours d'eau non analysés pour examiner leur qualité physico-chimique. Et c'est une action réalisée dans le cadre du projet projet qui s'appelle Aussitôt et qui tire son origine dans les Vosges et donc qui vise justement à analyser la qualité des petits cours d'eau et donc ils nous ont proposé de faire des prélèvements, donc on a réalisé des séances d'animation à destination de tous les publics pour faire de la science participative et ces personnes-là pouvaient ensuite repartir avec des kits eux-mêmes pour faire des prélèvements chez eux. Et donc c'est un projet qu'on a fait dans la Marne et qu'on va essayer de reconduire dans les autres départements. Sinon, pour tout simplement faire des actions de plus des animations plus ludiques. Parfois, on a pu en faire l'année dernière dans le cadre d'un appel à projet de la communauté d'agglomération de Châlons. Donc, à destination des habitants d'un quartier prioritaire. Donc avec une chasse au trésor, avec des jeux, pour rendre la biodiversité ludique et qu'ils en apprennent plus là-dessus. Et
quels sont vos moyens de communication pour ça? Parce que tout à l'heure, je parlais des haies, parce que nous, on reçoit, quand il y a des chantiers, mais quand on nous dit, tiens, ce week-end-là, vous pouvez participer à planter des haies, nous, on sait quel impact ça a, on sait pourquoi, même si on ignore beaucoup de choses, mais enfin, on sait déjà pourquoi, quelle est l'importance. Mais en fait, vous, comment vous diffusez ça et comment vous diffusez ça auprès de tout le monde, dans les écoles primaires, dans les bureaux de la mairie, à la boulangerie, partout, quoi.
C'est ça, mais en fait, déjà les réseaux sociaux ou les contacts qu'on a déjà. Pour diffuser auprès de vous des...
Oui, mais les réseaux sociaux reviennent à des contacts que vous avez déjà, c'est-à-dire qu'on reste dans un cercle de personnes qui sont intéressées.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est ça, c'est...
Vous intervenez auprès des écoles, par exemple, auprès de classes des...
Oui, tout à fait. Bon, il y a un projet également là-dessus sur une année scolaire qu'on fait tous les ans. Ouais. C'est dans le cadre des projets LIFE, donc c'est financé par l'Union Européenne. Et oui, tout à fait, dans les écoles, oui... Dans l'école, oui, primaire.
Là, vous touchez des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées.
Oui, c'est sûr, ouais. Mais c'est que oui, on essaie de développer au maximum la communication. Tous les moyens sont bons, le bouche à oreille.
Et les écoles, vous visez quelle école au début? Enfin, quel niveau scolaire
En l'occurrence, primaire.
D'accord.
On a essayé collège, je sais pas si ça a dû déjà se faire, sais pas, mais dernièrement, les écoles primaires en tout cas, ouais.
Ok, non, je posais la question, j'étais avec mon neveu qui a 6 ans bientôt, en fait, ils ont fait une sortie chez les pompiers il y a 2 jours, et en fait, il faut voir les messages que j'ai réussi à lui faire passer, en fait, sur les dangers du quotidien. Et je me dis, l'importance des enfants pour transmettre certains, pour véhiculer certains messages à leurs parents sur la dangerosité ou pour faire attention à certaines choses, c'est assez important. Enfin, je trouve ça chouette. Hein.
Donc, oui, c'est que... un regard neuf et innocent.
Oui, puis on retient... Ah, c'est dangereux ça, maman, tu fais pas. Ah, voilà.
Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et tu sais mon choix est fait, je peux plus revenir en arrière, tu parles d'une carrière dans une firme planétaire. Je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur notre atmosphère. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants. Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie use. J'aime pas du tout ce que je fais, mais bon j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et après tout j'ai choisi, ainsi va la vie et le monde vieillit. Et dans 3 ans c'est la retraite, je sauverai pas la planète, je vais pas me prendre la tête, non. Pas me prendre la tête, non, non. Je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et tonne bordure. Moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement au minimum d'air pur. Faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse, je profiterai de la vieillesse. Hey, faut pas compter sur moi, dans ce bordel y'a plus que toi, dans ce bordel y'a plus que toi. Hey, toi t'es celui qui rêve, je t'envie, j'en crève, que ma vie est triste, que la vie est triste. Et je sais pas combien tu es, je te laisse mes regrets et mon amertume. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont vécu grassement, qui te laissent un héritage. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont traversé les temps sans faire de sentiments. Et après, et après, et après, et après.
Dans la liste des questions qu'on avait évoquées aussi, tu nous avais parlé, peut-être qu'on pouvait aborder... Hein. Un cas pratique en fait, d'atteinte à l'environnement pour comprendre en fait, les enjeux, les acteurs concernés, et puis bah, peut-être le déroulement d'une procédure, le temps que ça peut prendre, etc. Est-ce que ça peut être intéressant d'évoquer, je sais pas,
ouais.
Si...
Oui, bien sûr. Oui, bah, c'est qu'on a déjà parlé de quelques éléments. Oui, j'avais en tête plusieurs types de sujets, on va dire... notamment les déchets pour commencer. Comme je vous avais dit, il peut y avoir différentes situations Donc un dépôt de déchets sur une, par exemple une, sur un terrain privé, donc qui pourrait être, on va dire, sanctionné et remis en état s'il a des impacts sur l'environnement, sur la voie publique. Et donc bien sûr il y a une procédure pénale qui est possible ou une procédure plus administrative, donc le maire ou le, enfin surtout le maire ou l'intercommunalité pour avoir une compétence pour résoudre ce problème là. Donc et si le dépôt sauvage a lieu sur une voie publique, donc là le maire aura la compétence sans avoir à prouver l'impact spécial sur l'environnement. Ou sinon, on peut faire face à des opérations de... Vraiment de pas un dépôt épars ou aléatoire, mais vraiment des opérations volontaires de stockage de déchets. Donc après, justement, le caractère volontaire va pouvoir être prouvé en fonction de plusieurs indices. Et là, ce type d'opération-là, elle pourrait être soumise ou non à une réglementation de ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, soumise à l'accord ou non du préfet de département.
Et donc, là, j'ai appris concernant les dépôts en ville, en fait. Dans le Grand Reims, il y a des gardes champêtres qui sont chargés, depuis peu, qui sont chargés d'essayer de retrouver qui a fait le dépôt. Parce que j'habite, j'ai un parking juste à côté de chez moi, et il s'est avéré qu'il y a eu un congélateur qui a été déposé là, mais alors le congélateur coffre, quoi, qu'on ne peut pas emmener facilement. Donc j'ai appelé les services de la ville pour demander, et la personne m'a dit, écoutez, là je vais voir, elle avait un collègue qui allait partir. Je vais voir avec mon collègue, parce que normalement, il faut appeler les gardes champêtres. Et je crois qu'il y en a, je ne sais plus si c'est 2 ou 4. Donc sur 143 communes, c'est pas, même s'il y en a 4, ça ne fait pas beaucoup. Et voilà, il y a ça qui est mis en place. Après, de toute façon, un congélateur, la personne, elle n'a pas sa carte de visite, donc c'est compliqué. Si c'est des papiers administratifs, des choses, on peut peut-être avoir des indices, mais là, c'est pas possible, quoi. Donc, ils sont venus. La municipalité, ils sont venus. Les services de la ville sont venus le chercher. Il n'y a pas eu de souci, mais.
Ah oui, ils ont réussi à trouver le.
Ils ont trouvé un camion pour l'enlever. J'avais un soupçon sur la personne qui l'avait mis, mais bon, je peux pas. C'est qu'un soupçon, donc.
Pareil que dans certains quartiers de Reims, c'est des milliers de tonnes au moins qui sont ramassées.
Oui, mais ça me surprend pas.
Et peut-être que dans les grandes villes, il y a plus de. Après, même s'il y a plus d'habitants, il y a peut-être plus de moyens aussi pour agir contre ces dépôts-là, plutôt que dans les plus petites communes.
Puis après, il y a les déchetteries. Ouais. C'est bien une déchetterie, mais sauf que la personne qui n'est pas véhiculée, elle ne peut pas y aller, quoi. Donc, pour les choses les choses encombrantes, lourdes...
Est-ce que les encombrants passent encore à Reims ?
Non, pas à ma connaissance. Non.
Parce que je sais qu'il y a encore des... Enfin, une fois par mois, moi, je vois encore des camions circuler. Et ils font vraiment toutes les rues pour récupérer. Mais je ne sais pas si c'est des véhicules qui récupèrent ce qui traîne ou si réellement, il y a encore des encombrants.
Pour moi, il n'y a pas... je ne sais pas. Je suis peut-être mal informée. Ou peut-être que, comme moi, je peux y aller à la déchetterie. Pas regardé dans les détails. Mais à moins qu'il y ait un service où on peut appeler pour...
C'est une bonne question. Je ne sais pas si il y a des services.
Ce serait logique après, parce que même les personnes âgées qui n'ont pas de famille ou pas, personne ne peut aider.
Et puis, il y a juste un petit souci, parce que par exemple, des personnes dans des immeubles ou même dans les maisons individuelles, des personnes qui déménagent et ne veulent pas certains meubles, ou même un congélateur, des choses comme ça.
Je crois que c'est ça. Je crois que c'est mon voisin quand il a déménagé.
Elles les mettent devant la porte de l'immeuble. Ça s'est déjà produit là où habite mon fils, pour que, au cas où des personnes voudraient les prendre, puissent les prendre. Ça se passe comme ça au Québec.
Ah oui, c'est intelligent.
C'est très, très fréquent. Mais alors là, est-ce qu'on considère ça comme un dépôt sauvage ou pas?
Bah, ça dépend si ça y reste qu'un jour ou si c'est pas si ça part,
s'il
n'y
a personne,
direct,
s'il y a personne qui le prend, évidemment.
Faut qu'elle mette un mot sur le...
Oui, bah, oui, déjà, j'ai déjà vu ça, des gens qui mettaient « vous pouvez vous servir
oui, ».
Hein.
Dans le Nord, okay. Enfin, il y a une vingtaine d'années, quand tu allais à Lille, tu savais que tout... Je ne sais plus c'était quel jour de la semaine ou quel jour par mois, c'était ça, en fait. De toute façon, on le savait. Là, je pense que ça s'est perdu. Parce que les gens vont plutôt mettre sur Internet pour revente et je ne suis pas sûr que des logiques comme ça existent encore. Hein. Donc, je regarde qu'en fait, quand on fait une recherche sur encombrant à Reims, on tombe sur différents trucs, mais je n'arrive pas à tomber sur un truc d'officiel. Donc, je vous invite à chercher. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à nous contacter au 03 26 02 33 74.
Mais d'ailleurs, oui, il existe une application, il me semble, qui s'appelle Give, G-E-E-V. Donc, ça consiste en prêt ou don d'objets entre des voisins. Mm-hmm.
Oui.
Il me semble,
ah oui, oui, ça, c'est encore autre chose.
Oui, mm-hmm. Après, oui, c'est plus...
Il y a des sites de dons aussi.
Oui.
Hein.
Mm-hmm. Ouais.
À propos des sentinelles,
ouais. Hein,
sur le dépliant là, que tu as apporté, je vois que pour poster une alerte, il faut laisser son nom, son prénom, un mail, c'est ça?
Oui, pour créer un compte, ouais.
Je trouve ça un peu assez limité, un peu léger.
C'est pas anonyme. Hein.
Comment ?
Non. C'est pas anonyme.
Est-ce qu'il y a une vérification de l'identité qui est effectuée par la plateforme ? Pardon, oui. Parce que sinon, moi, je sais pas, à l'aide d'une intelligence artificielle, par exemple, je peux faire apparaître une voiture toute déglinguée dans le jardin de Simon, et puis poster une alerte, quoi.
Bah oui, mais quand les gens vont sur place, ils voient bien qu'il n'y a rien, donc ouais. Quoi, tu vois.
Oui, ça, dans tous les cas, ça se... Dans l'absolu, ça se vérifierait.
Aucun intérêt, quoi,
oui,
tu vois.
C'est ça. Mais quand on crée un compte, au moins, il y a un code qui est envoyé, oui, sur l'adresse mail. Après, je ne sais pas si ça prémunit suffisamment, mais oui, il y a une vérification quand même. Et puis... Après, nous, quand on va traiter l'alerte, on peut aussi remarquer s'il y a des choses douteuses, si c'est une image faite avec l'intelligence artificielle. Même si le progrès a avancé, je pense qu'on pourra le remarquer.
Ou alors, quelqu'un qui dénonce un dépôt à un endroit, alors que c'est quoi, chez son voisin, en disant « mon voisin a fait ça, je l'ai vu faire », alors que c'est lui qui l'a déposé. Mais bon, ça n'a aucun intérêt, en fait.
Pour finir... quel message tu voudrais faire passer aux personnes pour répondre à leurs questions? Parce que des fois, les personnes n'ont peut-être pas conscience aussi, connaissance de toutes les associations environnementales qui existent, ou des fois, elles en connaissent une et en fait, elles n'ont pas envie de s'investir dans d'autres. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment vous contacter, comment avoir des informations, comment vous aider ou,
Oui, alors, en tout cas, on peut accueillir toute personne en tant que bénévole, toute personne, même sans compétences spécifiques en lien avec notre objet, il y a vraiment aucun problème. Toute personne peut venir pour nous aider. Ça peut être pour Sentinelle, pour, par exemple, nous vérifier des alertes ou nous en faire remonter ou nous aider. Autant que pour des actions de sensibilisation, vraiment pour plein de choses différentes. Et pour nous contacter, bien sûr, sur les réseaux sociaux, donc on a une page Facebook, Instagram. Et aussi, je peux vous donner notre mail, je pense.
Oui. Ouais,
oui, donc après... On n'a pas encore de site, mais donc notre mail, donc, le mail générique de l'association, donc c'est can.assos@gmail.com. Et pour le côté juridique, donc can, C-A-N-E, donc en minuscule, .juris, J-U-R-I-S, @gmail.com.
Ok, et une personne, une association... qui voudraient avoir besoin de vous ou un avis, elles peuvent vous contacter directement à cette adresse-là aussi.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et je voulais aussi préciser oui, qu'on va être ouvert à partir de l'année 2026 aux personnes physiques, donc aux adhésions personnes physiques, en plus des personnes morales, puisqu'on est une fédération. Donc à l'origine, on a seulement des personnes morales, donc associations adhérentes.
D'accord.
Mais pour. Il a été choisi de. Décider d'aussi ouvrir aux personnes individuelles l'adhésion.
Donc en plus d'être bénévole, on pourrait être adhérent.
C'est ça, oui.
Super.
En tout cas, avoir des contacts privilégiés, on va dire. Ouais.
Question oubliée au début, là, l'enregistrement quand la CAN a été présentée,
oui.
Et qui me vient maintenant.
Ok.
Alors, comment est financée la CAN? Comment se finance-t-elle?
Alors, bonne question. Ouais.
Puisque les adhésions aux personnes physiques vont seulement être ouvertes l'année prochaine.
Ouais. Oui, donc on est quasi totalité en subvention publique. Donc, ça peut être la DREAL, Direction Régionale de l'Environnement, l'Aménagement et le Logement. La région Grand Est, l'agence de l'eau, donc en Champagne-Ardenne, il y a l'agence de l'eau Seine-Normandie et Rameuse. Donc l'Office français de la biodiversité aussi, ou sinon dans le cadre d'appels à projets ponctuels pour des actions spécifiques. Globalement, quelques dons, mais c'est vraiment pas la majorité, c'est minorité, ouais.
Et donc, si c'est pas top secret, ça vous fait quoi comme budget annuel?
Pour l'année, 70 000 euros. 500 000, il me semble, ouais. Environ,
et,
ouais.
Et dans le contexte actuel, il n'y a pas des suppressions de subventions?
En tout cas, on a connu, pour un certain projet, un durcissement des conditions, on va dire des preuves financières à... pour justifier la subvention. Mais pour l'instant, on n'en a pas encore connu de manière directe, même si on a connaissance de... Mais on craint qu'en 2026, il y ait bien sûr des coupes. Ouais.
Et dans les institutions citées, DREAL, OFB, Agence de l'eau, le contributeur principal, qui est-il?
Principal la DREAL.
DREAL.
Ouais.
La DREAL, c'est l'État, quoi.
Oui,
c'est l'État, bien sûr. Ouais.
Tanguy, merci beaucoup de toutes tes lumières.
Merci à vous pour l'accueil.
Et donc, on va aborder le thème de l'eau. Sous quel aspect? Eh bien, ça, vous le saurez bien.
En écoutant l'émission.
Bien vite. Et donc, Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Du coup, l'eau, on peut le prendre par plusieurs aspects, donc au robinet ou dans les WC, en bouteille ou dans les ruisseaux. Par quel chemin, par où veux-tu qu'on commence à aborder l'eau?
On pourrait commencer à la source ou alors au robinet de la maison. Ça dépend.
D'accord.
Un petit peu...
Le robinet à la maison, en fait, tu parlais de source pour beaucoup de personnes. L'eau, c'est au robinet ou quand ils achètent un pack d'eau. Mais nous, on est peut-être intéressé à l'eau du robinet. Donc, pourquoi pas partir du robinet?
Oui.
Que peut-on dire de cette eau-là? De quelle qualité est-elle?
Alors, l'eau du robinet, c'est une eau potable. Mais on n'a pas forcément le même sens tous de ce que c'est que la potabilité. On a tendance à croire qu'une eau potable, c'est une eau qui est bonne pour la santé, sans résidus quelconques, qu'on peut donner à son enfant, qui est bonne pour les femmes enceintes. Et en fin de compte, la notion juridique de la potabilité, c'est une eau qui est conforme. Et donc là, c'est tout à fait différent parce qu'il faut admettre que dans une eau conforme, il y ait des produits qui ne sont pas désirés, mais qui sont en quantité inférieure à une dangerosité supposée.
D'accord, pour la...
ou avérée.
D'accord, pour la majorité de la population ou pour tout le monde ?
Voilà, en principe pour tout le monde.
D'accord.
Mais des fois, c'est vrai qu'il y a aussi des restrictions uniquement, par exemple, comme je disais, pour les femmes enceintes ou les bébés.
D'accord, ok. Et il peut y avoir des restrictions pour des maladies particulières pour certains individus ou,
Non, vraiment pour ça, non, j'ai pas connaissance de ça.
D'accord. Mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, une eau potable, c'est une eau qui est bonne pour la santé.
Oui, bah oui.
Bah, pas voilà. Nocive en tous les cas, oui.
Pas nocive en effet. Mm-hmm.
Alors ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de soucis alors non pas l'eau qui est au robinet, mais un petit peu en amont, sur les endroits où on capte l'eau pour l'amener au robinet. Et c'est un petit peu l'ensemble de ces problèmes-là qu'on essaie de maintenir en état donc qualitatif et quantitatif. C'est les deux principales notions. Quantitatif, parce que les grands centres urbains, il y a une forte population, donc il faut pouvoir fournir une bonne quantité d'eau pour tous les usages. Mmh. Et puis qualitatif, parce que évidemment il y a des personnes peut-être plus fragiles. Donc il y a deux types de pollution. Il y a la pollution bactériologique et puis les pollutions chimiques. Donc bactériologique, c'est tout ce qui est microbiens, amibes, enfin... ça, c'est relativement bien protégé par notamment la chloration, hein, où il y a des traitements assez efficaces. Mais par contre, la grosse problématique, c'est chimique.
D'accord. Et principalement, les problèmes chimiques, ils viennent de l'extérieur de la nature, ou on peut, majoritairement, ça peut être des problèmes liés à l'activité humaine.
C'est toujours des produits d'activité humaine. Alors souvent, ce qui peut arriver, c'est des activités passées il y a très longtemps. On n'est pas trop touché par ça. Reims, peut-être avec les perchlorates par rapport à la guerre 14. Hein, les munitions qui sont restées dans le sol et qui polluent la nappe phréatique. Mais sinon, c'est des activités plus récentes.
Ok.
Bon, des activités industrielles ou agricoles, pour la plupart. Et puis, il y a eu... Après, pourquoi il y a des froches qui sont plus sensibles que d'autres? Parce qu'ils ont été moins bien protégés, parce qu'il y a eu plus d'activités à proximité.
Donc, j'ai pas entendu parler récemment justement de ne pas pouvoir prendre de l'eau ou de faire une zone de 200 mètres autour d'un captage où il n'y aurait pas de pesticides dans les champs, des choses comme ça. Tu n'as pas entendu parler de ça il y a quelques semaines?
Alors, il y a ce qu'on appelle les périmètres de protection.
Ouais.
Hein, faut donc, le champ captant, c'est une zone assez grande où une goutte d'eau va, par ruissellement, toutes les gouttes d'eau vont arriver au même endroit. En principe, c'est les lignes de crête, mais bon, des fois, c'est un petit peu différent. Mais par contre, on distingue trois périmètres près du forage d'eau potable. Le périmètre immédiat, donc là, on ne peut rien faire, on peut juste tondre. Et le périmètre rapproché, la pollution met une journée pour arriver au périmètre immédiat, et puis après le périmètre éloigné. Il n'y a pas vraiment de restriction d'activité, sauf sur le périmètre immédiat, où là on ne peut pas déposer de matériaux, de produits chimiques, on ne peut pas mettre de fumier, on ne peut pas stocker des produits dangereux, etc.
T'aurais voulu être l'archange dans l'océan de mes songes, m'arracher de la fange dans laquelle mon cœur plonge, me prendre sous tes ailes, faire des loopings de fou, dessiner l'arc-en-ciel de ma vie qui prend goût. Mais emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi, mon cœur chavire, mes tympans saignent, emmène-moi. T'aurais voulu être le héros qui me sauve de la noyade, me sortir la tête de l'eau, puis me dire viens on s'évade. Sur les routes de Bohème, pour une randonnée de dingue, faire un signe à ceux que j'aime, que je suis vivant sous ma carlingue. Mais emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi. Mon cœur chavire, mes tympans saignent, emmène-moi. J'aurais voulu te suivre, frangin, et pas m'ancrer dans ce naufrage. Dans la descente au requin, j'ai donné mon courage. Je dérive, je chavire, du fond je bois ta barge, je m'abîme. Au fond je prends le large, mais emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi. Mon cœur chavire, mes tympans saignent, emmène-moi. Emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi. Là où s'abîment les âmes en peine, emmène-moi. Emmène-moi.
Et donc par rapport à deux termes que tu as employés, ce qui veut dire que d'une manière générale, l'eau que l'on a dans un forage est de meilleure qualité que de l'eau qu'on obtient sur un captage. Parce que généralement, quand on forage, on va plus en profondeur, que l'eau a été plus filtrée, alors qu'un captage, elle est plus à même d'être à l'air libre, si j'entends.
Alors dans le périmètre immédiat, à l'endroit du forage, il n'y a pas de filtration.
Ouais.
C'est on pompe l'eau. On analyse au départ et on fore en pensant qu'elle est bonne. Et puis, voilà, on la pompe et on l'envoie. Donc après, de là partent des tuyaux. La protection vraiment du forage, c'est maintenant une obligation d'avoir une sorte de dalle en béton qui protège des effluents. Et puis, ce qui est un petit peu malheureux, qui n'a pas été fait partout dans la Marne, c'est que... des fois, il y a juste donc ce qu'on appelle une sorte de piézomètre, un tube avec un cadenas au-dessus.
Ouais.
Et donc, la protection, maintenant, c'est quand même important qu'il y ait une petite maison fermée, protégée, qu'il y ait un grillage tout autour, enfin, qu'il y ait des mesures de protection, vraiment, quoi.
Ouais.
Et on constate que dans la Marne, il y a encore des endroits où même la surface... du périmètre immédiat n'a pas été n'est même pas passé par une enquête d'utilité publique, n'a même pas donné lieu à arrêté préfectoral.
Ah ouais.
Et donc comme je dis, je pensais que la Marne c'était un département très en avance sur plein de questions puisqu'on fait beaucoup d'innovation tout ça, et en fin de compte dans des coins quand même assez éloignés des centres urbains, on trouve des sortes de petites cabanes au fond du jardin où on pompe de l'eau potable.
Oui, quand je parlais de filtre, je parlais de l'infiltration et donc du filtrage naturel. J'ai travaillé chez Cristaline et donc on avait des forages et des captages. Et de ce que j'entendais, l'eau du forage, vu qu'on allait la chercher plus profondément, était par nature, si je peux dire, plus filtrée que celle du captage. Et donc, c'est pour ça que je voulais que je te posais cette question-là, en fait.
Oui, alors, il y a... le captage, c'est une surface, en fait. Mmh. C'est une surface avec certaines conditions. Le forage, c'est, on va dire, le tuyau qui descend pour aller chercher l'eau. Et puis, comment dire... Enfin, c'est deux choses différentes. Le forage, il va où ? Il va dans une nappe. Mmh. Hein. Y a quelques forages qui sont en rivière, par exemple sur Paris. Ils pompent l'eau de la Seine et ils la traitent. Et c'est ça qui est fourni aux Parisiens. Nous, c'est la nappe de craie, hein, qui est la nappe de craie nord et la nappe de craie sud. Ce sont des grandes nappes qui ont des quantités d'eau impressionnantes. Mais malgré tout, en difficulté, en danger.
Bon, heureusement qu'on n'est pas écouté en région parisienne. Ouais, parce que les pots,
ils arrêteraient tous. Encore moins qu'après, tu sais plus, l'eau en bouteille, elle n'est pas forcément top non plus.
Ouais, je crois qu'ils le savent. On avait fait venir à une époque celui justement qui gérait les laboratoires de Paris, qui analyse l'eau après traitement pour vérifier ces critères de potabilité.
Ouais. Et donc, parce que là, on parlait technique, mais on va endormir plein de personnes. non, mais c'est...
On va les noyer.
Ouais, on va les noyer. Aujourd'hui, parmi toutes les substances qu'on peut trouver dans l'eau qui sont nocives, dangereuses, voire plus, quelles sont celles où il faudrait peut-être vraiment se méfier parce que, par exemple, c'est dangereux pour la santé ou on ne sait pas vraiment l'étendue de la dangerosité ou des substances qu'on observe de plus en plus.
Oui. Alors, moi, sur l'aspect dangerosité, j'aurais du mal à dire celle-là est plus dangereuse qu'une autre.
D'accord.
C'est un domaine assez compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a trois types de produits. Il y a des substances qui sont naturellement présentes. Je pense au sélénium. Comme c'est la nappe de craie, c'est une nappe très profonde et très grande. Il y a ce produit-là qui se retrouve dans la nappe. Ce n'est pas un problème à partir du moment où il y a beaucoup d'eau dans la nappe parce qu'il est dilué.
Okay.
Mais on va retrouver ce problème-là par rapport aux autres produits présents. C'est-à-dire que quand la nappe elle diminue, évidemment, les produits qui sont plus lourds, qui sont au fond de l'eau, eh ben, ils vont se concentrer. Et donc, quand on va puiser, au bout d'un moment, on aura une eau de plus en plus concentrée.
Du coup, alors, je rebondis directement sur cette question-là, parce que je me rappelle avoir vu des émissions donc, sur Coca-Cola dans les pays étrangers, où justement, et Coca-Cola pouvait se servir en premier, et donc il vidait la nappe, et donc il restait très peu d'eau, et donc il y avait plus de concentration dans ce qui restait, donc les habitants, l'eau qui leur restait n'était plus potable. Par contre, Coca-Cola leur vendait des bouteilles de Coca-Cola pour boire.
Ah oui. Bah, oui.
Est-ce qu'on a aussi ce problème-là en France ? Est-ce qu'on a des entreprises privées pour fournir de l'eau en bouteille ou d'autres boissons qui sont autorisées à utiliser l'eau de nos sources en priorité ? Et donc, ça affaiblit nos ressources en eau potable. Et donc, l'eau qu'on a dans notre système, par l'eau du robinet, est donc...
De moindre qualité.
Je te remercie, Cécile. Est-ce qu'on a aussi ce problème-là en France ?
Pas dans la Marne, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a de grosses usines quand ils sont en difficulté. C'est Perrier et puis Vittel, je crois.
Oui.
Alors, à chaque fois, c'est parce qu'ils ont, un droit, un quota qui leur est attribué. Hein, l'histoire des quotas, on le retrouve souvent hein, dans les arrêtés préfectoraux. Quand il y a une activité, ou même sur les forages en général, que ce soit par exemple sur la production de patates, dans la Marne, ils ont un quota. Donc ils peuvent aller jusqu'au bout du quota. S'ils n'ont pas assez, ils peuvent en redemander un autre. Ou une dérogation temporaire. Enfin, ouais. Il y a plein de solutions. C'est très outillé de ce côté-là.
Je conçois bien. Ouais.
Alors par contre, je crois que Perrier, son problème, c'est une question de pollution. Tandis que Vittel, ils ont besoin de traitement, mais c'est surtout la quantité qui pose problème. Ouais. Par rapport aux habitants de Vittel.
Le renouvellement de la nappe qui permet pas de...
Le problème à Vittel, c'est que les habitants ne consomment plus l'eau de Vittel. La leur, elle est amenée une autre commune, un autre endroit par pipeline, parce que la société Vittel pompe tout et c'est aberrant.
Oui, ben ça, Bon, on a, je sais que dans la Marne, on a aussi des eaux minérales. Tu parlais de la cristalline. Bon, je pense que après, on est un département où il y a beaucoup d'eau. Je pense pas qu'il y ait de problématique de ce côté-là, quoi.
Et donc, je t'ai coupé pendant que tu énumérais les trois oui. problématiques, enfin dans l'eau. Donc, je t'ai
trois
coupé
types de produits.
C'est ça. Donc, je te laisse.
Donc après, il y a des produits qui sont installés durablement dans la terre ou dans la nappe. Hein. Je pense, j'ai parlé des perchlorates à cause de la guerre 14, etc. Mm-hmm. Mais on peut parler aussi de l'atrazine, des produits qui ont été utilisés quand même il y a assez longtemps, mais qui ont la particularité d'être émanants, c'est-à-dire que ils sont dans l'eau, ils arrivent à ressortir avec la chaleur, et puis ils passent dans l'air, et puis ils se redéposent, et puis ils repartent dans l'eau. Enfin, okay. On a ce type de produit. Et puis surtout, on a maintenant une quantité de produits chimiques importants qui arrivent. Et donc, tous les 6 ans, la chance de l'eau, c'est de Normandie... fait son programme de travail pour les 6 années à venir et elle propose des objectifs et aussi des travaux, des mises en place de projets pour remédier aux différentes problématiques de l'eau. D'accord. Et en fin de compte, les produits chimiques, notamment ceux issus de l'agriculture, sont de plus en plus nombreux, importants et... arrivent maintenant des molécules industrielles comme les PFAS, les polluants éternels, dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis, on a un autre type de pollution chimique qui va sûrement apparaître, c'est la question du cadmium, qui est dans les engrais agricoles. Et que pour l'instant, on n'évalue pas trop, mais qu'on suspecte d'ici quelques années d'arriver et de poser... Il y a 2 types de produits. Il y a ceux qui vont vous tuer à partir de la dose, on va dire. Ouais. Et puis ceux qui vont s'accumuler dans votre corps et qui vont finir par donner une dose qui engendrera des... Voilà. Donc le cadmium, c'est ce type de produit. Il se cumule dans l'organisme. Et puis les PFAS, ce sont des produits dont la valeur toxique n'est pas encore complètement considérée. Donc on suspecte plus, soit des actions sur endocriniennes hein, qui viennent perturber le système endocrinien, soit toxiques, soit... Alors c'est compliqué à expliquer parce que dans le temps on avait au niveau de l'eau potable on avait un polluant à 1 microgramme et quand on avait dans l'eau 5 polluants ça faisait 0,5 microgramme et là pof on avait un arrêté qui disait l'eau n'est plus potable, il faut faire quelque chose. On a trouvé que c'était pas tout à fait juste, qu'il y avait des produits toxiques, plus toxiques que d'autres. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle une valeur maximale par produit. D'accord. Et donc, on attend que l'ANSES dise ce produit-là, c'est 0,6 mg, celui-là, c'est 0,01. Donc, et après, on analyse l'eau quand on recherche ces produits-là, mais c'est seulement en fonction de la valeur. Et on peut constater qu'avant c'était 0,1 mg et dès qu'il y en avait 5 c'était plus potable. Mais est-ce que maintenant si la toxicité allait à 0,6 microgrammes, on en a un petit peu plus.